studio mobile, arrêtez du loin, ici et là, poum poum poum. Ça se déplace, ça se met. Ça se met sur le dos, dans la caisse. Ici. Et là. L'arrivée sera belle.
You got no clock, but many, many times, a little walk to walk, a hope and a good line.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes sur le festival de Makistan à l'ancrage Vassieux en Vercors. Et on est le 8 juin 2024. Le festival Makistan, c'est l'occasion de rassembler les luttes, de se retrouver et de s'empowerer, comme on dit en français. Maintenant, on va présenter un petit peu les différents ateliers qui sont présents sur ces rencontres. Et on va commencer avec Maud. Salut à toi.
Bonjour. Donc, je vais organiser des ateliers d'art visuel et résistance. Et il y en a eu un déjà hier, où en fait, très peu de choses se sont passées, mais on espère donner une dynamique durant ces 3 jours ici au Makistan.
Est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est que l'art visuel avec les résistances?
J'aurais pu dire art plastique, voilà, c'est souvent le mot qu'on connaît. Donc effectivement, c'est par rapport au visuel. Et j'ai deux pôles. Le premier fait un petit peu appel à ce qu'on a fait avec l'association Protégeons le Mont Vanille, où on a déposé des cailloux peints sur le chemin de Vanille, où il devait y avoir une carrière. Et chaque caillou représentait les oubliés du dossier de projet de carrière sur le Mont Vanille. Et donc, on va poursuivre cet atelier. Donc, les personnes peuvent peindre un caillou et ensuite écrire leur prénom et le nombre de kilomètres qui les séparent du Mont Vanille, donc à Saint-Nazaire-en-Royan. Donc là, il y a eu quelques initiatives. Vous pouvez y aller sans moi, vous pouvez le faire. Il y a tout le matériel en place. Donc n'hésitez pas à y aller, laisser sécher la peinture et puis reprendre un peu plus tard votre caillou pour mettre votre nom, par exemple. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a un deuxième pôle avec, disons plutôt du papier, des crayons, des feutres, des ciseaux, pour pouvoir faire des affiches qui peuvent déjà embellir les stands sur le Makistan. Donc, vous pouvez aller demander aux personnes qui les tiennent s'ils sont d'accord et s'ils ont des visuels à vous proposer. Et j'ai aussi j'ai de la ficelle, j'ai des pinces à linge, et donc on peut aussi embellir les stands et faire de l'information. Plus général aussi, vous pouvez travailler sur n'importe quel thème. Là, il y a eu quelques visuels qui sont sous la tente berbère, qui parlent du poulailler, alors du méga poulailler, la ferme usine d'engraissage de volatiles qui est portée pour un projet à Perrin. Donc, il y en a qui en ont entendu parler. D'ailleurs, il y a une petite manifestation le 26 juin devant la préfecture de la Drôme à 18h. Et donc, vous pouvez nous y rejoindre.
Pour toi, l'art et la résistance, c'est forcément lié?
Alors, en tant que personne en lutte, en fait, on est souvent soumis à des burn-out possibles. Et donc l'art peut participer, à faire fuir certaines idées en embellissant les choses ou en faisant valoir ces voix qui restent invisibilisées, inaudibles par le gouvernement. L'art, en fait, fait appel à la création et c'est fondamental, en fait, pour l'être humain, la créativité tout ce qui tourne autour de l'art. Et souvent, en fait, dans un collectif, ça met du lien. Et même si ça n'a pas tout à fait du sens, un sens direct, mais quelquefois ça met du lien entre les militants. Et donc ça a toute son importance de pouvoir songer à ces moments où on va être ensemble, à discuter et à produire quelque chose ensemble pour la lutte.
Tu fais ça toute l'année ?
Non, c'est une petite passion l'art, mais ça... ça m'intéresse. Bon, voilà, je peux l'enseigner parfois. Donc, alors évidemment, les manifestations, moi, j'aime beaucoup la com en fait et déconstruire le discours que tout le monde peut entendre et notamment dans les médias. Donc, il m'arrive d'écrire dans des médias participatifs comme Ricochet. J'aime aussi écrire des chansons. Bon, j'en ai fait au moins 4 pour militer, en fait. Et ça me fait du bien. Et après, quand on peut tous les chanter ensemble, voilà, ça met du baume au cœur. Et il y en a un qui est célèbre aussi, c'est Bella Vanille pour la protection du Mont Vanille. Donc, voilà.
Est-ce que tu nous as tout dit sur ton atelier ?
Pour les arts, oui.
Alors, les rendez-vous ?
Alors, le prochain rendez-vous, bon, il y en avait un hier soir, mais le prochain rendez-vous, c'est dimanche à partir de 11h dans la grange 2.
On te retrouve dans quelques instants, mais on va passer à Vercors Citoyen.
Voilà, bonjour, donc François et puis Jean-Yves de Vercors Citoyen. Alors, pourquoi on est là ? Vercors Citoyen, c'est une association, un collectif de citoyens qui s'est créé en 2022. Parce qu'en 2022, on a découvert, les habitants de Villars, on a découvert qu'il y avait un projet immobilier qui arrivait sur Villars, un projet porté par Tony Parker et la municipalité, et qui consistait à construire un hôtel 4 étoiles luxe pour une clientèle évidemment de luxe, all inclusive, et qui se situait sur l'accès direct au domaine skiable. Et dans le cadre de ce projet, notamment, la mairie donne gratuitement à Tony Parker un terrain qui permet d'accéder à la montagne. Donc on s'est opposé tout de suite, le collectif s'est créé, on s'est opposé à ça, il y a eu des manifs, ainsi de suite. On est à peu près, on est 1000 adhérents plus 500 sympathisants. Donc on s'oppose toujours à ça, on a engagé une procédure judiciaire contre cet échange de terrain qui nous semble contraire à l'intérêt collectif. Et ce qu'on reprochait surtout, c'est que tout ça est arrivé. Le projet, la première fois qu'il a été présenté, il a été présenté à Lyon, dans une conférence de presse où il y avait Tony Parker, le maire de Villars, celui de Lens. Et donc, ce projet, c'était 900 lits à Villars et 600 à Corançon, sur une résidence où déjà il y a des grands bâtiments qui sont inoccupés une grande partie de l'année. Ça, les habitants n'ont pas été consultés. Voilà, on a demandé l'avis de personne et ce truc arrive du ciel et c'est pas une bonne chose. Alors on nous dit souvent qu'est-ce que vous proposez ? Et donc dans le statut du collectif, on dit qu'on est pour un autre projet. Et donc l'idée, c'est un projet avec les habitants et pour les habitants. Donc à côté de cette phase de lutte, on a aussi une phase maintenant où on va à la rencontre des habitants. C'est pour ça qu'on est ici. On veut développer une réflexion collective des habitants du Vercors. Et quand je dis du Vercors, bon, il y a les quatre montagnes, il y a le Vercors central, il y a le Royan. Bon, on n'est pas allé jusqu'à Die et les autres secteurs parce qu'on n'est pas assez nombreux, mais bon, on a lancé ça. Et depuis mi-avril, donc on a un dispositif d'écoute où Jean-Yves va vous expliquer comment ça se passe, mais on rencontre des gens pour leur demander leur vision, pourquoi ils sont là, leur vision, ainsi de suite, de manière à arriver avec quelque chose, en pouvant dire à nos politiques, ben voilà, vous proposez ce truc-là, mais voilà quel est le quotidien des habitants, et voilà à quoi ils aspirent.
Alors on va faire un petit rappel, Villars de Lans, Corançon en Vercors, c'est peut-être la seule station de ski qui tourne encore réellement dans le Vercors, mais est-ce que les stations de ski ont encore de l'avenir ? Est-ce que vous êtes posé aussi ces questions-là, écologiquement, en termes de gestion de l'eau, de ce site, l'or blanc, c'est fini ?
Alors nous, on est persuadés que l'or blanc, c'est fini, ce qui n'est pas donc le cas de ceux qui proposent ce projet. Ils restent dans une forme de déni où on nous explique qu'il n'y a pas de problème d'eau sur le Vercors, qu'il n'y a pas de problème de neige, ainsi de suite, alors que même la mission environnementale dit le contraire. Donc voilà, mais l'idée, c'est justement par le biais de la consultation là, qu'on fait, on se rend compte qu'il y a plein d'initiatives locales, hein, et pas qu'à Villars justement, il y en a beaucoup dans le Vercors central ou dans le Royan, qu'il y a des choses qui se mettent en place, ou en tout cas qu'il y a des gens qui réfléchissent. Et l'idée, c'est de dire, ben voilà, nous, on n'est pas que contestataires, on peut avoir des solutions si on travaille ensemble, on peut arriver à quelque chose qui permette aux gens de vivre ici, d'habiter ici aussi, parce que c'est un gros problème, et de se déplacer, enfin, ainsi de suite. Donc on veut arriver à quelque chose de cohérent et qui serait acceptable.
Et faites-nous rêver, le terrain, il fait combien de mètres carrés ?
Le site, je ne sais plus combien il fait, 15 000 mètres carrés. Enfin, c'est énorme, hein. C'est colossal. Et puis c'est surtout l'accès qui était aujourd'hui public à la montagne qui devient privatisé avec des parkings souterrains, avec du béton et avec des installations qui vont être consommatrices d'énergie, d'eau, tel que ça a été évoqué. Donc on pense qu'on est sur un modèle des années 70. On a revu les argumentaires à l'époque de construction de la Côte 2000. On retrouve les mêmes aujourd'hui, alors que le contexte avec la transition climatique nous oblige à réfléchir différemment. Voilà, donc nous, on travaille pour effectivement définir un projet de territoire. Alors pour définir un projet de territoire, on s'appuie sur des partenaires qui sont des universitaires, en fait, spécialisés dans l'aménagement du territoire, en particulier en montagne, donc des gens de l'UGA, des universitaires. Et puis, on s'appuie également sur l'UNADEL, qui est une asso spécialisée sur, on va dire, les mouvements de démocratie participative, donc d'écoute citoyenne, permettant de développer des méthodes d'écoute, et ensuite de consolidation de ces écoutes pour définir la vision du territoire qu'on espère à un horizon, alors 2030, 2040, 2050, dans ce contexte de transition que tu évoquais, bien entendu. On sait que la neige, ça va être de moins en moins une ressource sur laquelle on pourra compter. On en aura encore un peu, mais ça va s'étioler. En tout cas, il y aura des périodes de grande sécheresse et donc de stress hydrique. Donc, on a défini une petite méthodologie assez simple où on a un questionnaire qui est déroulé auprès de citoyens, de résidents du Vercors. Hein. On cible majoritairement les gens qui habitent sur le territoire du Vercors, donc sur les trois géographies, les quatre montagnes, le Royan et puis le Vercors central. L'enquête, enfin l'écoute est totalement anonyme parce qu'on souhaite récolter tous les avis dans leur diversité. Donc on garde strictement l'anonymat des personnes qui sont écoutées. On vise la plus grande diversité dans un échantillon qu'on espère être d'environ 200 écoutés. Aujourd'hui, on a déjà fait une cinquantaine d'écoutes et ça progresse bien. Donc on a des jeunes, des moins jeunes, des actifs, des élus, des entrepreneurs, des gens qui sont dans l'économie de la neige. C'est très important de les écouter aussi. L'écoute donc dure environ une heure. Elle est structurée en deux parties. La première partie, c'est vraiment mon Vercors à moi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis attaché à ce territoire? Qu'est-ce qui fait que ce territoire est spécifique pour moi? Quels sont les obstacles que je rencontre aujourd'hui et que je pense rencontrer demain? Et la deuxième partie du questionnaire, c'est le Vercors de la communauté, notre Vercors à nous. Qu'est-ce qui... Parce que finalement, les pépites qu'on essaye de trouver, on est un peu des chercheurs d'or, on essaye de trouver ce qui peut faire du lien, du vivre ensemble, des ressources communes, des valeurs qui peuvent rassembler des territoires qui sont aujourd'hui quand même assez différents administrativement, dans leur mode de fonctionnement. Et on imagine malgré tout trouver des ressources communes, des valeurs communes qui peuvent faire que dans le futur, on aura un vrai territoire et un vrai projet de territoire. Alors cette approche, elle a été déroulée des dizaines de fois, hein, notamment par l'UNADEL, par les universitaires. On donne souvent l'exemple, par exemple, du pays de Menet en Bretagne, où c'était un territoire qui était en train de mourir. Enfin, les gens partaient, il n'y avait pas de futur. Et l'idée centrale qu'ils ont vue émerger était dans les années 70 autour des énergies vertes, des énergies renouvelables. Et c'est un pays qui aujourd'hui vit bien, qui a déployé beaucoup de ressources de production d'énergie renouvelable. On cite aussi par exemple le Val-de-Drôme, où la vision là a été une production de fruits et de légumes totalement écologiques et qui a permis effectivement d'embarquer les citoyens autour de cette vision-là. Alors on avait initialement l'ambition de les arrêter à l'été. Ça marche bien et on va les poursuivre pour avoir un échantillon suffisamment représentatif. On fera une première restitution intermédiaire en septembre et une restitution complète à la fin de l'année pour que l'année prochaine, on puisse travailler sur cette base et là, cette fois-ci, définir au travers d'assises citoyennes, je dirais, des plans d'action qu'on ira présenter aux élus.
Vous êtes toujours en lutte sur le terrain ?
Toujours.
Je veux dire, l'entente maire de Villars, Corançon et Tony Parker fonctionne toujours ?
Ah ben, il lâche pas, mais nous non plus. Voilà. Le maire va faire une présentation publique du nouveau projet, parce que le projet initial, il y a eu un avis de la mission environnementale, qui est une autorité autonome et qui levait tous les problèmes qu'on soulevait, c'est-à-dire l'eau, le traitement de l'eau, les déchets, la circulation. Et donc, ils sont censés avoir revu leur projet à la baisse pour prendre en compte ça. Et le maire doit présenter... cette semaine, là, le 13, faire une présentation publique dont on n'espère pas grand-chose. Mais pour eux, ils maintiennent. Quoi, voilà. Mais par contre, on est toujours en lutte puisqu'on a l'action judiciaire en cours. On a déposé un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal. Et ce recours va être examiné sur le fond, mais ça prend du temps. Mais le maire avance quand même. Alors notre atelier, ben, c'est de, parmi les gens présents, là, c'est de pas hésiter à venir nous voir pour qu'on puisse, on est suffisamment nombreux pour réaliser des écoutes sur site. Voilà, on est au moins 3 équipes, on peut faire des écoutes. Et pour ceux qui n'auraient pas le temps ou qui préfèrent réfléchir, on peut prendre des contacts pour prendre des rendez-vous et revenir. Parce qu'on est déjà venu faire des écoutes là. Sachant qu'aujourd'hui, pour être complet sur ça, sur les écoutes qu'on a réalisées, on en a fait 23% dans le Vercors central, donc ici, 17% dans le Royan, 60% au cas de montagne, mais bon, on est basé là, donc c'est plus facile. Et il y avait à peu près 47%, c'était des femmes, 53% des hommes, 68% de néo-habitants et 32% de locaux. Donc on fait appel, n'hésitez pas à venir nous voir.
Est-ce que vous avez besoin de choses pour votre lutte ?
Il ne faut pas hésiter à adhérer à Vercors Citoyen. Alors, une chose importante, c'est que les écoutes, c'est initié par Vercors Citoyen, mais il n'est pas obligatoire d'être adhérent à Vercors Citoyen pour être écouté ou pour même écouter d'autres. Parce qu'on recrute aussi des écoutants. C'est un peu la chaîne comme ça. Après, ceux qui veulent adhérer, bien évidemment, c'est 10 euros et ils sont tous les bienvenus. Et on va faire notre Assemblée Générale là, le 18 juin, donc... voilà, il faut pas.
C'est un point important. On a besoin de moyens financiers parce qu'en face, ils ont énormément d'argent. Ils ont des avocats, ils ont des budgets pour financer des cabinets d'études dans tous les domaines critiques. Et donc, on a besoin d'une puissance financière aussi pour déposer ces recours. Et les avocats coûtent cher. Donc, n'hésitez pas. C'est 10 euros. Et on a besoin de cet argent pour continuer notre lutte.
Voilà. Et si Tony Parker est en galère, il nous refera un bel album de musique. Merci à vous.
Vercors Merci.
Citoyen. Salut Maud. Tu es de retour pour nous parler de ton deuxième atelier.
Oui, alors il y aura 2 ateliers d'arpentage. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est. L'arpentage d'un livre, c'est une méthode de l'éducation populaire qui vient des ouvriers du 19e siècle qui voulaient s'approprier les savoirs intellectuels alors qu'ils n'avaient pas forcément les moyens chacun d'acheter un livre. Donc en fait, ils achetaient un livre... collectivement, ils le partageaient entre eux. Chacun en lisait une partie, redonne au groupe le contenu de sa partie. Et ensuite, il y a une appropriation des savoirs. Avec un partage financier, un partage des savoirs, éventuellement un débat après. Et puis, quelque chose qui met encore du lien entre les militants. Alors, ça désacralise un peu le livre, hein, puisqu'on le découpe vraiment. C'est important, puisque dans un livre, en fait, c'est le contenu qui est le plus important et non pas le livre lui-même. Je vais proposer un premier arpentage du livre « Première secousse des soulèvements de la terre », donc aux éditions La Fabrique. Et il aura lieu ce soir de 20h à 21h sous la tente berbère. Et demain dimanche, aux mêmes horaires, donc 20h à 21h sous la tente berbère, on ne dissout pas un soulèvement.
Juste pour bien comprendre le principe, en fait, chacun va faire son petit résumé de ce qu'il a compris de sa partie, quoi.
Voilà, donc on lit sa partie en une vingtaine de minutes et on a 3 minutes pour le restituer au groupe. Alors, suivant le nombre de participants, on peut ne pas aller jusqu'au bout du livre, mais ça peut donner l'intérêt, pourquoi pas, de l'acheter puisqu'on a pas les mêmes soucis que les ouvriers du 19e siècle, et puis discuter ensemble avec les personnes qui voudront bien participer à ces deux arpentages.
Et un atelier d'arpentage, en fait, c'est le moyen aussi de d'essaimer, j'allais dire, justement, un ouvrage assez rapidement.
Tout à fait. Ouais. Et on le lit beaucoup plus vite. En 2 heures, on a fini le livre. En 2 ou 3 heures, on peut finir un livre. J'ai pas en tête. Mais bon, il est assez épais. Voilà. Mais ça dépend quel ouvrage. Quelquefois, on va jusqu'au bout. Quelquefois, on n'y va pas. On se laissera porter par les conditions, tout simplement. Le nombre de personnes. Et puis, nous, là, on a un atelier limité à 1 heure. Mais pourquoi pas se décaler ailleurs pour le terminer à un autre moment. Voilà.
Eh bien, merci, Maud. Et vous pouvez quitter la scène si vous avez envie. Hein. Bonjour, Violette. Quel atelier tu vas nous proposer ?
Je fais partie du collectif Stop Micro qui lutte à Grenoble contre l'accaparement des ressources par l'industrie de la microélectronique. Et du coup, je vais animer un atelier à 15h, ici, sur notre lutte. Et sur l'industrie de la microélectronique et toutes les nuisances que ça crée.
Bah, précise-nous.
Je viens de Grenoble, et à Grenoble, il y a 2 grosses entreprises qui s'appellent ST Microélectronique et Soitec, et qui font des puces électroniques, donc c'est les composants de base de tous les objets connectés. Et mon collectif s'est formé à la base parce que du coup, il y avait l'annonce de l'extension d'une des usines, puis de l'autre, à l'heure où en fait, il y a une sécheresse, il y a eu des sécheresses assez intenses chaque été dans la vallée ces derniers étés. Et en fait, il faut savoir que c'est 2 entreprises qui pompent énormément d'eau. ST Microélectronique, elle consomme tous les jours l'équivalent d'une ville de 100 000 habitants.
Acrolles.
Acrolles, ouais, c'est ça, c'est ouais. Acrolles. C'est du coup dans la vallée du Grésivaudan, juste après Grenoble. Et donc, l'eau est utilisée et elle ressort polluée parce qu'elle sert à rincer les puces des produits chimiques qui sont dessus. Et elle ressort très, très polluée dans l'Isère. Elle est faiblement traitée, mais en fait, c'est des seuils de pollution qui font que la rivière, après, n'est même pas baignable. Donc, encore moins buvable. Et récemment, on a aussi appris qu'ils rejetaient beaucoup de PFAS. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Arkema et des rejets de PFAS. Et du coup, c'est le 3e émetteur de PFAS aussi en Isère. Du coup, mon collectif, il s'est monté au début sur des questions plutôt écolo, consommation d'eau et pollution de la rivière et de la nappe phréatique qui est en dessous. Et en fait, au fur et à mesure des recherches qu'on a fait, on s'est rendu compte que les puces qui étaient produites à Kroll par ces 2 entreprises, elles servaient en fait à un monde qui nous intéresse pas du tout. D'abord, elles servent dans des objets connectés qu'on peut qualifier de gadgets. Enfin, elles servent très 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 peu à des usages médicaux ou même dans vos téléphones. Elles servent à la reconnaissance faciale, à la voiture l'électrification dans les voitures, donc les voitures au diesel, mais qui ont des gadgets électroniques à l'intérieur. Et des objets, enfin, je peux vous lister des petits objets connectés, comme une tondeuse à gazon autonome, une bouteille connectée qui te rappelle régulièrement de boire de l'eau, un pommeau de douche qui t'indique combien de litres t'as consommé, etc. Donc, c'est pas vraiment des entreprises qu'on qualifierait de utiles. Et en fait, on a aussi découvert récemment, dans le cadre de du coup, la guerre en Ukraine et en Palestine, qu'il y avait un gros filon dans l'armement. Aujourd'hui, beaucoup d'armes sont connectées. En fait, les drones, ils sont connectés. Enfin, il y a des lunettes de visée. Enfin, en fait, on peut télécommander des armes à distance. Et du coup, ça se fait à partir de puces électroniques, en fait. Et du coup, les puces qui sont produites dans le Grésivaudan ont été retrouvées à Gaza et en Ukraine. Puisque la France est le 2e exportateur d'armes du monde, du coup, on se doute qu'en fait, il y en a sur tous les fronts, sur tous les conflits, quoi. On a de plus en plus élargi notre champ de revendications et de questionnements au fur et à mesure qu'on découvrait toutes les nuisances qui étaient causées par ces entreprises. On a déjà organisé 2 grosses mobilisations l'année dernière et cette année qui ont réuni 1 000 puis 2 000 personnes. Voilà, globalement pour la lutte.
Qu'est-ce qu'il vous faut là maintenant ? C'est communiquer encore plus, faire connaître ça ?
Ouais, pour le moment on est assez content parce que le problème est assez arrivé à l'ordre du jour. Enfin, on en entend beaucoup parler, même les élus ont commencé un peu à prendre position dessus et on a envie du coup de continuer à faire du bruit, du grabuge pour... Ouais. D'avoir des relais médiatiques, d'avoir des relais, même pas que médiatiques, que tout le monde en parle, en fait, pour que ça devienne vraiment un problème d'ordre public.
C'est assez particulier ce que tu nous dis, parce que, Grenoble, on sait, est passé à l'écologie, a priori. Crolle, c'est quoi comme municipalité ?
Non, c'est pas de gauche, Crolle, mais en fait, les autorisations environnementales à Crolle, elles viennent de la métropole. Et du coup, c'est une majorité de gauche, mais pas écolo. Enfin, Christophe Ferrat, il sait.
Et ils sont sensibilisés comment, ces élus ? Non, ça...
Et ben, du coup, on a beaucoup. C'est surtout Europe Écologie Les Verts, du coup, qui sont à la tête de la municipalité de Grenoble, qui ont fini par prendre position. Et du coup, tous les élus ont exprimé le fait qu'ils étaient contre l'agrandissement des usines, sauf Éric Piolle. Voilà, après ça c'est pour la municipalité, mais en fait toutes les autorisations elles sont données par la métropole et la métropole s'est jamais prononcée. Voilà.
Donc il y a encore un gros boulot de pression et de com.
Oui.
D'où cet atelier.
Oui.
Eh ben merci à toi.
Merci.
Alors hein, c'est comme ça au fil, je ne sais pas qui j'accueille, mais présentez-vous et parlez-nous de votre atelier.
Bonjour, je m'appelle Laure, je suis partie d'un collectif qui s'appelle Diffraction et on vient animer des ateliers en lien avec les luttes. Mais tout autour de nous, ce qui nous intéresse, c'est la résilience des luttes et c'est comment est-ce qu'on continue de s'impliquer dans des luttes comme celles dont on vient d'entendre parler, mais sur le long terme. Donc on propose deux ateliers. Il y en a un premier qui est aujourd'hui à 11h ou après ce point-là, qui s'appelle « Lutter sans se cramer, épuisement et système nerveux ». Donc l'idée, c'est vraiment d'aller voir, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'entrelacer les enjeux individuels, collectifs et systémiques. Et donc d'aller voir comment notre système nerveux qui nous fait réagir de façon automatique face à ce qu'on perçoit comme du danger ou des situations de haut stress, comme dans des actions de masse, comme au hasard celle des soulèvements de la Terre, et de voir comment est-ce qu'on peut travailler ça, appréhender ça et se soutenir collectivement pour traverser et donc lutter dans la durée. Donc ça, c'est le premier atelier aujourd'hui. Donc on est deux, on l'animera avec TAC qui est ici. Et le deuxième atelier qui est demain, il s'appelle Soins et oppression systémique. Et donc là aussi, l'idée, c'est d'entrelacer ces questions individuelles et systémiques. Et en fait, il y a un gros sujet qui monte dans les milieux militants et pas que, mais depuis quelques années, c'est la question de tout ce qui est oppression systémique. Donc racisme, validisme... sexisme, enfin bon voilà, tout ce qui est tous ces ismes qui nous empoisonnent la vie, qui empoisonnent nos corps et nos esprits. Et donc là, l'idée, c'est de venir travailler sur une question en fait de soins communautaires, c'est-à-dire que plutôt que d'être dans le contrôle et la punition et de juste rejeter des personnes qui vont avoir des comportements problématiques, même si parfois l'exclusion peut être nécessaire, hein, je ne vais pas en débattre ici, mais c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire si on dit quelque chose, par exemple, qui nous blesse, qui est de l'ordre du racisme ou du sexisme ou autre, c'est comment est-ce qu'on peut le nommer à la personne et comment est-ce que la personne peut l'entendre. Et en fait, c'est de venir travailler sur ce qui est, tout ce qui est honte, culpabilité, etc., et donc capable de le traverser pour pouvoir accueillir l'autre. Parce que ce qui se passe dans les milieux, dans nos milieux, enfin pas partout bien sûr, mais dans beaucoup d'endroits, c'est que quand on nomme quelque chose à quelqu'un, quand on dit en fait tu m'as blessé sur ça, souvent on le dit avec l'état qui est le nôtre, c'est-à-dire parfois beaucoup de colère, et on se fait envoyer paître parce qu'on est trop en colère et on nous dit non mais va calmer ta colère, espèce d'hystérique, pour peu qu'on parle féminisme, et reviens me voir plus tard. Et donc là l'idée c'est de pouvoir accueillir cette colère-là et de pouvoir prendre ses responsabilités en fait et pour ensemble faire communauté et donc lutter dans la durée plutôt que de s'épuiser et de se rejeter.
Alors les questions de durée, c'est effectivement crucial dans la lutte, ça tombe beaucoup. Tu nous parles aussi de quelque chose qui est assez, on va dire, particulier. On ne s'imagine pas que les milieux militants on va tous dans le même sens, puissent embarquer des mauvais ismes. Est-ce que tu l'expliques ?
Ben, oui, en fait, on grandit dans des sociétés qui sont patriarcales, coloniales, racistes, etc. Donc, en fait, ben, on a tout ça dans nos corps, on l'a imprimé. Donc, la question, ce n'est pas notre intention, parce qu'en fait, souvent, on n'a pas envie de faire du mal, on n'a pas envie de blesser l'autre. Et malgré nous, on le fait. Et donc, souvent, il y a un décalage, parce que quand la personne nous dit qu'on l'a blessé, en fait, l'idée qu'on puisse être une mauvaise personne, entre guillemets, en fait, ça nous touche tellement qu'on est incapable d'entendre ce que nous dit l'autre.
Je dirais que c'est presque pire dans les milieux militants, parce que comme on se croit suffisamment bien engagé du bon côté, on ne peut pas accepter le fait d'être soi-même
je sais pas si bon. Je ne sais pas si je peux dire que c'est pire, mais en tout cas, ça fait beaucoup partie de nos milieux militants. Mais de toute façon, dans la culture occidentale, il y a cette idée qu'on est à la fois objectif et donc pas du tout influencé par les normes sociales. Il y a cette idée-là très forte de notre indépendance d'esprit et de choix et de réflexion, alors qu'en fait, on est complètement influencé par la publicité, par le marketing, la culture, etc. Et l'autre point, c'est qu'on croit qu'on est, on est bon. Mais ça, c'est pas juste dans les milieux militants. C'est pour ça qu'il y a autant de difficultés à se remettre en question, en fait. Enfin, c'est l'un des facteurs qui explique ça. Et donc là, on vient travailler avec parfois intensité, mais aussi de la douceur, avec du cadre, avec du soin militant. On vient s'accueillir là-dedans pour pouvoir le traverser tous ensemble.
Merci.
Et c'est demain.
Rappelle-nous
à 11h.
Ouais, 11h, très bien.
Voilà.
Salut à vous.
Salut.
Alors, on a qui au micro ?
Alors, moi, je m'appelle Marine et je suis accompagnée de Mourad. Et donc, on propose un atelier qui s'appelle vulgairement OQTF. Et donc, l'objectif, c'est de reprendre un petit peu tous les derniers événements en termes d'attaque des droits des personnes étrangères en France, notamment avec la loi qui est passée cet hiver, la fameuse loi asile-immigration. Et donc, tous les changements que cette loi implique pour les droits des personnes étrangères ici en France. L'objectif, nous, c'est de faire un peu une mise au point, mettre en commun nos connaissances et nos compétences à chacun pour que tout le monde ait un peu les bons réflexes et sache comment réagir quand une personne prend une obligation de quitter le territoire un vendredi à 17h, qui contacter, comment on lit une décision de justice, comment aussi, si les personnes ont des questions, vers qui les orienter.
Tout à fait, et aussi comment on lit une OQTF, les délais, les différentes perspectives de régularisation, les différents titres de séjour. Et puis le but c'est de, alors sans dire armé, mais en tout cas comme disait Marine, d'avoir pour les personnes qui sont en contact avec les personnes étrangères, qui les aident, les sympathisants, les bénévoles, ou en tout cas ceux que ça intéresse, déjà d'avoir un aperçu des différentes possibilités de régularisation et les bons réflexes pour contester des décisions de rejet ou des obligations de quitter le territoire français. Et après, bien sûr, on peut un instant de débat et d'échange pour parler, pour répondre aux questions qui peuvent se poser.
Vous proposez ça de manière spontanée, là, où il y a une association derrière, y a
Oui, alors nous, on n'est pas du tout une asso, ni un collectif. Enfin, on est plutôt un collectif de copains qui se sont rencontrés dans le cadre souvent du travail. On a beaucoup travaillé auprès de mineurs non accompagnés, de personnes en demande d'asile. Mourad a une expérience au centre de rétention de Calais aussi. Donc en fait, on s'est retrouvés sur ces sujets en commun et on essaye de se tenir informés, de faire une veille juridique. Donc là, l'objectif, ce n'est pas de faire un cours de droit un peu chiant, c'est vraiment de vulgariser aussi les procédures, de faire en sorte que tout le monde puisse comprendre facilement à quoi ils ont affaire. Et comment on gère ça ? Parce que souvent, ça va devoir se gérer dans l'urgence si on veut aider correctement les personnes.
Est-ce que tu peux nous donner deux, trois trucs quand même là, pour l'auditrice, l'auditeur qui ne pourra pas faire cet atelier ? Parce que beaucoup de gens sont en fait, beaucoup plus qu'on en pense, sont concernés par cette entraide, notamment en Drôme, qui est un territoire tampon des Hautes-Alpes. Ou en Isère, par exemple, c'est le cas aussi.
Déjà, la première chose, c'est de lire une décision. Si vous avez une obligation de quitter le territoire français, le délai de départ volontaire, il y a plusieurs mesures accessoires à cette décision principale. Déjà, savoir qu'est-ce qu'une OQTF, c'est une obligation de quitter le territoire français pour être envoyé dans le pays de nationalité ou de résidence. Et c'est une décision administrative de la préfecture. Ensuite, lire la décision et en dessous, vous avez ce qu'on appelle les notifications des délais et il y a des délais pour faire un recours hiérarchique ou faire un recours gracieux, c'est-à-dire pour contester, mais pour demander à la préfecture d'annuler cette obligation. Et il y a aussi le délai contentieux. Et en fait, souvent, le plus simple, c'est de lire pour voir en bas, à la fin de la décision pour voir les délais. Ensuite, d'autres réflexes, on va dire, on rentrera dans les détails lors de l'atelier, puis on répondra aux questions, mais c'est aussi, bien sûr, si le délai le permet, de se mettre en contact, soit on connaît les avocats, soit on ne connaît pas les avocats qui sont spécialisés dans ce domaine pour contester des OQTF, d'avocats en droit des étrangers, et qui sont un peu militants, investis, compétents, parce que c'est ça aussi l'enjeu. Et on peut se rapprocher des différentes associations au niveau local ou appeler la permanence du GISTI. Il y a la CIMAD aussi qui est implantée un peu partout sur le territoire pour voir un petit peu justement qui contacter, quel avocat. On peut faire aussi une demande d'aide juridictionnelle. Et après, si on est dans vraiment une urgence, une ultra-urgence, c'est-à-dire que des fois, il y a des délais très courts de 48 heures, par exemple, on peut faire un recours sommaire. Il y a des modèles qu'on peut trouver sur Internet, sur le GISTI, sur c'était les recours citoyens aussi également, et sur Internet du moins. Et on peut faire un recours très sommaire et ensuite ça nous laissera le temps, justement ça interrompra le délai et ça nous laissera le temps justement de contacter un avocat compétent pour faire un complément de recours ultérieurement. Par exemple, ça peut être des choses et aussi à savoir que en fait, le droit des étrangers, c'est beaucoup de plusieurs petites cases, mais c'est pas parce qu'on peut se dire parfois, bon, de toute façon, ils rentrent dans aucune case, mais on peut ne pas rentrer dans une case maintenant et la situation peut changer. Et c'est aussi pour ça qu'il faut être à l'écoute aussi des personnes, parce qu'en fait, parfois, on se dit, c'est quoi ton problème ? Ouais, j'ai des problèmes au pays. Donc on se dit, bon, une demande d'asile, mais en fait, si on gratte un peu, il y a des problèmes de santé. Si on gratte un peu, il y a de la vie privée familiale. Faut toujours être à l'écoute et puis questionner et approfondir un petit peu, parce que des fois, on n'était peut-être pas suffisamment à l'écoute, on n'a pas écouté jusqu'au bout, on n'a pas poussé, on n'a pas re-questionné la personne et on n'a pas forcément tous les éléments. Et il y a plusieurs possibilités de régularisation qui existent. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais...
Ouais, c'est bien. Et puis, on peut rappeler que dans la solidarité, il y a des fois des solidarités un peu à sens unique. On se fait du bien à aider les autres sans s'intéresser à leur vie.
Tout à fait.
C'est une matière qui est extrêmement technique et on n'est pas tous d'accord entre les travailleurs sociaux, les juristes, les avocats qui intervenons. Et effectivement, il faut aussi des fois faire attention pour les raisons pour lesquelles on aide et à vouloir faire trop bien, à vouloir se précipiter, à aider les gens, on fait mal sans faire exprès. Et des fois, on se retrouve avec des gens qui ont des procédures où ils n'ont pas bien compris dans quoi on les a embarqués, qui se retrouvent au tribunal, qui se retrouvent avec des frais de justice extrêmement importants et qui ne savent pas très bien d'où ça vient, qui n'ont pas toujours été bien informés en tout cas. L'idée, c'est de ne pas cramer les gens, de prendre son temps et d'avoir du relais, du recours et de savoir surtout à qui on peut faire appel quand on est confronté à ça. Et surtout de rassurer les personnes. Il y a malheureusement énormément, ou heureusement, j'en sais rien, de personnes qui vivent sans papier aujourd'hui en France, qui travaillent, qui ont une vie de famille, qui s'en sortent extrêmement bien. On ne va pas précipiter ces gens-là qui sont, pour le coup, a priori ça va, dans des procédures qu'on ne maîtrise pas. C'est ça que je voulais rajouter.
Et les impliquer, tout à fait, ce que tu disais, c'est essayer de leur expliquer et de les rendre acteurs aussi. Parce que souvent, les personnes étrangères passent par plein d'intermédiaires différents qui sont ballottés de travailleurs sociaux de permanence en permanence. Ils ne comprennent pas forcément tous les enjeux. On leur dit, il faut faire ça, je vais faire ça. Et l'enjeu, c'est aussi de leur expliquer les différentes démarches, les différentes possibilités. Et après, c'est à eux de choisir. C'est pas nous qui prenons. Enfin, que ce soit bénévole, professionnel, sympathisant, avocat, on n'est pas Dieu. Hein, donc, c'est eux qui décident. Et le mieux, c'est de les conscientiser eux aussi à ça, de leur montrer les différentes possibilités. Et après, c'est eux qui décideront de toute façon. Et c'est ça l'enjeu.
Un atelier donc de vulgarisation de ce qu'est une OQTF avec vous, c'est à quelle heure, quand ?
Alors c'est ce soir à 19h ici dans la grange et demain à 15h ici dans la grange.
Merci.
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 Et hop, le plateau a de nouveau changé. C'est la magie de la radio. Tiens, je vais commencer avec la radio. Salut Radio Royan, salut Radio Saint-Ferréol.
Salut.
Salut Radio.
Qu'est-ce que vous nous faites, vous deux, Charlène, Théo ?
Alors moi, c'est Charlène et je fais partie de Radio Royan Vercors. Donc une radio qui est basée juste en bas à Saint-Jean. On a des studios et on a aussi un petit studio à La Chapelle en Vercors. Moi, en particulier, je couvre le territoire géographique du Vercors Sud. Et je suis avec Théo.
Pour Radio Saint-Ferréol, donc la radio qui a créé radio un peu historique, qui est née dans les années, fin des années 70 en pirate et qui existe légalement depuis un peu plus de 40 ans maintenant, qui est basée à Cré, qui émet sur la vallée de la Drôme. Et ce matin, on voulait vous proposer un atelier radio, la radio à la fois comme outil de lutte et puis pour documenter les luttes, du coup sur à la fois comment se former à l'outil radio lui-même sur le plan technique et puis comment utiliser des outils issus notamment de l'éducation populaire pour s'en servir vraiment comme un outil de lutte en soi, et puis avec cette question de comment faire de l'automédia, parce que c'est de plus en plus important quand même. On se rend compte un peu de l'enjeu qu'il y a à parler de nous, à parler de nos luttes, vu comment les traitent les grands médias, et du coup comment se réapproprier aussi cet espace-là.
Ouais, c'est aussi dans l'idée que des radios associatives, il y en a un peu partout. En fait, c'est des outils et des structures qu'on peut saisir, soit pour organiser des débats en plateau, où il y a des plateaux mobiles aussi qu'on peut amener sur les luttes ou sur certains moments de rencontre, et à la fois du matériel et des ondes, en fait, des ondes hertziennes qu'on peut utiliser.
Je vais balancer un petit chiffre qui fait bien plaisir. Il y a 780 radios associatives recensées en France et dans les DOM-TOM. Pour un peu plus de 1500 fréquences, donc on est le plus gros réseau médiatique.
Oui.
Vive les radios associatives.
Qu'est-ce que vous rajouterez sur votre atelier? Comment vous le voyez?
Alors,
qu'est-ce qu'on va y faire?
On a imaginé un atelier en deux temps. Le premier temps, ce serait un moment de formation. Où on vient prendre en main un peu les outils et les méthodes d'enquête et d'entretien et de plateau, pour ceux qui s'intéressent. Et un deuxième temps où on s'entraîne donc à mener ces entretiens pour finir sur un temps de plateau. Donc sous les Barnum, à côté de la boulange, il y a un petit plateau qui a été installé avec 6 micros. Et du coup, l'idée, c'est en dernier temps d'atelier de venir animer un plateau où on va venir écouter des choses, rebondir, débattre, discuter.
Est-ce que vous voulez dire un peu qu'est-ce que sont vos spécificités à Royan et à Saint-Ferréol? Comment vous luttez?
Alors peut-être sur l'atelier d'abord, juste pour compléter, parce que du coup, spécificité, moi je fais pas mal de trucs autour des questions d'éduc-pop, justement, et notamment sur comment faire des ateliers de radio pour donner la parole à des personnes, disons, en situation d'oppression, du coup, dans divers milieux, que ce soit sur le plan de la précarité, de la santé mentale, de l'âge, du genre, et du coup, de vraiment amener par des ateliers radio à partir de nos expériences vécues. Et c'est ça qu'on va faire un petit peu ce matin, c'est-à-dire que c'est l'éducation populaire, c'est vraiment comment partir de nous, nos réalités, nos expériences vécues, parce que c'est un savoir. C'est savoir plus égalitaire. Il y a cette question de déhiérarchiser les savoirs en se disant que les savoirs, moi je classe savoir froid, savoir chaud et savoir froid théorique, où pas tout le monde ne s'autorise à avoir un avis sur une question. Par exemple, on ne s'autorise pas tous à penser parce qu'on ne se sent pas légitime. Non pas qu'on ne l'est pas, mais qu'on ne se l'autorise pas parce qu'on est dans des situations d'oppression. Et du coup, beaucoup d'outils permettent justement de partir d'une situation vraiment concrète, vécue, un souvenir, une expérience, pour après confronter ces expériences-là, aller vers du fait de cette confrontation de récits, vers de l'analyse, du jugement, donc repolitiser un petit peu nos imaginaires et se rendre compte que nos réalités vécues, elles sont éminemment politiques. Et puis ensuite aller à quels espaces existent pour aller vers de l'action collective. Et c'est comme ça que vont se dérouler en fait la première partie de l'atelier ce matin, avec ce qu'on appelle des enquêtes de conscientisation. Voilà. Et c'est essentiellement ça qu'on va faire. Et puis des petites interviews mutuelles aussi pour d'abord pouvoir s'exprimer en petits groupes, et puis pour s'expérimenter à l'enregistrement avec des Zooms. Après, je n'ai pas répondu sur la spécificité de nos deux radios. Je ne connais pas assez bien Radio Royan, et notamment sur la partie plateau, pour le dire. Mais...
Et du coup, donc, ce que je disais, pour Radio Royan Vercors, on a un studio à Saint-Jean et un autre petit studio à La Chapelle. Et nous, je dirais que c'est sur plusieurs axes. On a beaucoup d'émissions bénévoles qui sont militantes. Donc il y a Bella Vanni, sur la lutte de Vanni. En fait, au moment où ils ont créé la lutte, ils ont pris un créneau donc mensuel pour venir un peu témoigner et parler de la lutte. Donc ça, c'est des choses qui sont assez fortement écoutées, soit en direct, soit
en rediff podcast, quoi. Il y a aussi L'éclat des noctules, qui est une émission féministe radicale, tendre et joyeuse. Donc ça, c'est des jobs que nous, on fait. Bah, on est plusieurs salariés. On accompagne les bénévoles dans la construction de leur émission. Ça peut être des chroniques aussi. Et après, par contre, nous, on organise aussi des plateaux. Donc là, récemment, on a organisé un plateau sur la thématique du logement et de la précarité du logement dans le Royan-Vercors avec la Fédération des Amis Usagers du Parc, la FOP. Voilà, c'est des espaces, en fait, soit on invite, on sollicite, on va aussi sur les luttes pour poser des questions, pour documenter. Et généralement, on s'occupe aussi d'aller voir les deux parties. Et ça, c'est assez intéressant aussi de collecter... avec la casquette radio associative, qu'est-ce que pense une mairie du projet? Ça pourrait être pour Tony Parker. C'est assez facile d'avoir la casquette pour rentrer dans la mairie. Et ça, je trouve ça assez chouette. Il y a certainement plein d'autres choses que j'oublie, mais je serais ravie d'en discuter avec vous. Et aussi, juste pour finir, donc moi, le studio qui est installé sous le Barnum, il va rester toute la journée et toute la soirée. Et c'est aussi un espace qu'on peut utiliser soit pour discuter et faire des mini-émissions de radio, des mini-discussions et des mini-débats avec qui veut. Ça peut être des choses très spontanées et je serais ravie d'animer ça.
Et vous serez encore là demain ?
Et on sera encore là demain matin, mais pas hyper tard. 14h pour sûr.
Merci à vous deux.
Merci.
Merci.
Ah, on n'a pas précisé l'heure ?
Précisons.
Je précise que l'atelier commence à 11h, il est 11h20, donc en fait on va commencer juste après ce moment-là, on commence l'atelier au niveau du bar.
On se dépêche alors. Tout est décalé d'une demi-heure. Très bien. Et c'est samedi, hein. Alors.
Bonjour, du coup Teddy, je suis venu au Makistan pour présenter un atelier sur les smartphones et les récoltes de données, savoir un peu ce qu'on a dans la poche. On a tout ça, on ne sait pas comment s'en servir. On ne sait pas ce que ça implique. Et du coup, le but de l'atelier, c'est de dégrossir un peu tout ça, de voir quelles applications sont intrusives et de présenter la solution de la communauté du logiciel libre.
Et comment tu sais quelles applications sont sensibles et t'observes ? Vous avez appris ça où ? Dis-nous un peu plus.
Du coup, ça, je l'ai appris parce que ça m'a intrigué. Et plus j'ai fait des recherches, plus ça m'a fait peur parce que c'est vraiment, pour moi, un énorme enjeu. Et du coup, il y a pas mal d'associations qui ont développé des outils du coup, dans cette communauté du logiciel libre pour justement essayer de changer la norme et d'avoir d'autres systèmes beaucoup plus sains. Le but dans le logiciel libre, ce qu'ils disent, c'est que ça soit l'utilisateur qui contrôle le logiciel et non l'inverse. Du coup, c'est vraiment ça le combat. Voilà.
Donc, tu nous dis que de nos téléphones, smartphones ou iPhone, on peut virer ce qu'il y a dedans et mettre du libre.
Alors, le système Android, oui, parce qu'il est basé sur du code libre, du coup, que Google a repris. Mais iPhone est verrouillé, on ne peut rien faire. Enfin, comme d'hab, ils ont leur...
Faut les jeter, quoi, cela.
C'est pas très écolo, mais moi, je conseillerais, ouais.
Ok, c'est à quelle heure ton atelier ?
Du coup, il dure une heure. Aujourd'hui, c'est 16h, demain, 15h. Et du coup, c'est limité à 5 personnes par contre, parce que sinon, on ne peut pas faire le tour de chaque téléphone. Sur inscription, il y aura une liste d'inscription sur la tente Berber. Voilà.
Et c'est pas trop technique ?
Et pas du tout, justement. C'est pour dégrossir, justement, pour ceux qui ne comprennent rien. C'est là où il faut venir. Non, mais c'est vrai.
Merci à toi.
De rien.
Et puis
Moi, c'est pas tout à fait un atelier que je présente. C'est plutôt... quelque chose qui restera surtout le week-end, c'est la caravane 003, qui est une caravane d'accueil pour les enfants et même pour les bébés plutôt. Du coup, d'accueil des parents et des enfants pour pouvoir avoir un endroit tranquille, un endroit pour changer la couche, faire à manger, tous les petites boîtes à outils pour les tout petits et toutes petites. Et aussi, du coup, un espace parent, parce qu'il y a des lectures... de l'info-kiosque un peu, on est au tout début, donc on est aussi super preneuse d'idées pour alimenter cette caravane. Et donc il y a des bouquins de l'info-kiosque autour des questions de parentalité, et en fait nous, ce qui nous intéresse, c'est de réfléchir à la place des enfants dans les milieux festifs. Donc venez en discuter avec nous avec grand plaisir. Un jour, il y aura des ateliers, j'espère, autour de ce sujet-là. Pour l'instant, c'est le début, donc on n'en a pas organisé. Puis on s'est un peu greffé au dernier moment. Mais Mais moi, je suis super, je serais super ravie d'en discuter et d'élaborer ensemble des propositions, en fait, parce que j'ai l'impression que les enfants, même politiquement, plus largement que dans les milieux festifs, c'est une question qui est importante à se poser. Quelle place on leur laisse, comment on les éduque, qui les éduque, comment on fait famille à plusieurs, enfin voilà, toutes ces questions-là, j'aimerais bien les développer et du coup, voilà, venez en discuter et venez changer des couches.
Et puis pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que pour lutter dans la durée, c'est bien aussi d'offrir des espaces pour que les parents puissent venir avec leurs enfants, quoi.
Carrément.
Sinon, on le fait plus.
La base, c'était, c'est pas parce qu'on est parents qu'il faut arrêter de faire la fête. Mais c'est pas parce qu'on est parents qu'il faut arrêter beaucoup de choses. Donc après, la liste est à compléter ensemble. Et oui, j'ajoute qu'il y a à côté la tente berbère où il y a aussi des activités pour les plus grands, plus grandes. Il y a des Legos, il y a la peinture tout au long du week-end. Et nous, on a aussi une bibliothèque de livres pour enfants qu'on a choisi en fonction de justement ce que politiquement ces livres d'enfants portent. Et pareil, si vous avez des livres pour enfants... que vous connaissez, que vous voulez nous transmettre, des podcasts aussi, on a une liste de podcasts qu'on se partage, voilà, n'hésitez pas.
Eh ben merci à vous. Pour terminer, on va parler des deux derniers ateliers qui nous restaient à présenter.
Salut. Alors donc moi, je viens présenter la pièce de théâtre interactive qui aura lieu à 14h ici. Qui s'appelle No Prison. L'orthographe, c'est N-O entre parenthèses S, prison au pluriel. C'est une pièce qui, initialement, a été créée en lutte contre la construction d'une nouvelle prison à Muret à Toulouse. Faut savoir qu'à Toulouse, il y a suffisamment de prisons, mais surtout, il y a un plan national de construction de prisons. Et donc, ben voilà, il y a une lutte anticarcérale. On s'est rendu compte que très souvent, on parle de l'anticarcéral ou des prisons, mais sans vraiment avoir toujours les arguments ou sans être... c'est souvent difficile d'aller loin dans cette réflexion-là, et notamment collectivement. Parce que les personnes qui sont dans l'anticarcéral, elles ont un peu tendance à, au bout d'un moment, trouver que c'est naturel d'être contre la construction de toutes les prisons, et contre les prisons, contre les lieux d'enfermement. Mais en fait, très souvent, collectivement, on n'en discute pas assez. Et du coup, cette pièce, elle vient poser des questions et ouvrir vraiment un échange, mais qui n'est pas un échange genre fait pour les militants qui sont anticarcéraux avec le truc « tu sais ce qu'il faut dire pour être dans la bonne case ». En fait, l'idée, c'est de se poser vraiment les questions parce que ça pose les questions du système dans lequel on vit et aussi de nos propres limites. Quel rôle joue la prison dans nos vies? Jusqu'où on est contre? Pourquoi on est contre? Et donc la pièce, elle n'est pas faite pour donner une vérité, mais au contraire, pour poser un espace où grâce à une situation très concrète avec des personnages qui vivent ce questionnement, ben on va pouvoir se les poser ensemble dans un espace où il n'y a pas une réponse pour tout le monde. Voilà. Peut-être un petit mot sur le groupe qui fait ça. Nous, on est de la DEFCO de Toulouse. Mais pas que, les autres personnes sont plutôt du milieu toulousain. Et ben on s'est mis à créer des pièces pour parler de sujets qui sont très sensibles, difficiles et face auxquels on n'échange pas beaucoup. Par exemple, sur la garde à vue, on a une pièce de théâtre interactive sur la garde à vue qui s'appelle « Rien à déclarer ». Et donc, qui retrace un peu le chemin de la garde à vue, mais pas d'un point de vue juste théorique, mais plutôt pratique et dans lequel on va partager, essayer de réfléchir à pourquoi est-ce que très souvent on parle de ne rien déclarer en garde à vue. Mais plutôt que de juste adhérer au truc, de le découvrir en le vivant avec une pièce de théâtre. On a une pièce de théâtre sur le déferment aussi. Et sur... non, ça, je ne peux pas le dire.
Oh, pourquoi tu ne peux pas le dire? C'est pas fait, c'est pas prêt?
Je
ne
peux pas. Non, c'est prêt, mais je peux le dire quand ce sera coupé. Mais je ne peux pas le dire, c'est dangereux.
Dommage, on est des radios libres.
Non, c'est pas en rapport avec la radio libre, mais parce qu'il y a des niveaux de répression qui sont importants. On a aussi créé des pièces pour ces niveaux de répression-là. C'est pour ça que je ne peux pas trop en parler.
Et enfin, c'est avec toi qu'on clôture, Mélène. D'abord, merci pour ton invitation sur ce Somakistan, puisque c'est toi qui es un peu allé chercher les radios.
Bah avec plaisir.
Et
c'est vraiment chouette de vous accueillir là.
Et donc à toi.
Et donc alors là c'est un atelier, c'est pas moi qui vais l'animer, mais c'est pour présenter un atelier d'autodéfense qui va se dérouler à 11h30, donc là maintenant sous le chapiteau dès que les balances seront terminées, et demain à 11h. Et donc c'est un atelier d'autodéfense, c'est-à-dire en gros comment se sortir d'une situation potentiellement où on est oppressé ou même violenté. Et du coup, comment avoir des petits tips, comment connaître ses réflexes, etc., pour se sortir d'une situation et vraiment d'autodéfense et pas dans une volonté d'attaque, mais vraiment de se sortir de situations dangereuses potentiellement.
Autodéfense physiquement ou...
Ouais, physique, ouais.
Par exemple ?
Bah, je n'ai pas tous les détails parce que justement, c'est pas moi qui l'anime, mais c'est un mélange de boxe et d'une autre discipline dont j'ai complètement oublié le nom.
Ok, c'est sérieux.
Ouais, c'est sérieux, ouais. Il y a plein de tatamis dans le chapiteau, ça va chahuter un peu, je pense.
Ah ouais, très bien. Et adressé à tout le monde.
Et adressé à tout le monde, carrément. Il y a une jauge, je sais pas exactement combien de personnes, mais il y a une jauge qui doit être à 10 personnes, un truc comme ça. Merci pour ce plateau.
Merci à vous, merci l'assistance. C'était cool d'avoir du monde. Et c'est donc depuis le festival Makistan. Est-ce que juste pour les auditrices, les auditeurs, tu as envie de dire un petit truc en plus, Mélène, sur ce Makistan ? D'où ça vient ? Vers où ça doit aller ?
Eh ben, c'est un festival qui a envie de proposer une rencontre entre plein de résistances différentes, plein de formes de lutte et plein de thématiques de lutte aussi différentes. Et dont le but est de récolter des sous pour une asso qui s'appelle Strix et qui va aller dès l'automne prochain à Dunkerque pour venir en soutien aux personnes en exil qui ont tenté de traverser, qui se sont fait refouler, donc qui se retrouvent en pleine nuit trempés, sans à manger, sans abri, potentiellement pourchassés par la police. Et donc voilà, un peu venir en aide à ces personnes-là. Et au niveau de ce qui va se passer, cet après-midi, on a une conférence qui à 17h30 qui est intitulée « Société du maintien de l'ordre ou société du lien ?» Donc comment passer de cette société actuelle à une société qui va aller vers plus de construction de liens, de construction de communautés fortes d'entraide et de solidarité notamment, et de résilience aussi face à plein de choses qui nous menacent. Demain, il y a une table ronde des luttes locales avec Vercors Citoyen, avec la lutte contre la carrière du Mont-Vanille. Il y a la revue Silence aussi qui est présente et qui sera présente sur cette conférence. Il y a Help for Dunkerque qui est présente avec un stand. Il y a une librairie, une bouquinerie alternative, on va dire. Voilà, il y a plein de choses différentes et bienvenue à tout le monde.
Et la suite, ça se reproduira
Bah, c'est peut-être encore un peu trop tôt pour le dire, mais je crois que l'envie est là, ouais.
Merci Mélène.
Avec plaisir.
Et merci encore à toutes celles et tous ceux qui sont passés sur ce plateau. RDIWA 101.7, 107.5, internet www.rdiwa.fr. Bah à la prochaine.
Voilà. À la prochaine.